Et il est l'heure de retrouver notre émission Quartier Libre. Et pour cela, donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans notre studio de Digne, puisque ce monsieur est déjà venu plusieurs fois à Fréquence Mistral, mais dans d'autres communes. Yvon Bilisco, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes un pasteur à la retraite.
Voilà, c'est ça.
Et vous êtes ici pour aujourd'hui, donc, qu'on fasse connaissance avec votre premier ouvrage, vraiment, livre.
Oui, c'est
autobiographique.
Ça. Un livre autobiographique, c'est l'histoire de ma vie.
Donc, ce livre s'appelle « Ma révolution ». On y reviendra, bien sûr, dans le courant de cette émission. On va d'abord voir votre parcours, puisque comment on en vient à devenir pasteur, puisque vous me dites que vous êtes né catholique.
Oui. Mon père était yougoslave. Il était catholique. Ma famille est catholique de tradition. Et... nous sommes nés, tous les enfants de la famille, moins la dernière qui est née en France, mais tous les autres enfants, nous sommes tous nés en Égypte. Nous n'étions pas destinés à venir en France et à découvrir des éléments importants qui ont été intégrés dans notre vie. Et puis nous avons été mis à la porte de l'Égypte en 1956, quand le colonel Nasser a nationalisé le canal de Suez, les Français et les Anglais ayant protesté, eh bien, il a décidé de mettre dehors les Français et les Anglais. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés en France, où nous avions demandé la nationalité française en 1952. J'avais 2 ans. Je suis devenu français sans connaître la France, sans rien avoir vu de la France. Je parlais français, donc on parlait français à la maison. On est venu tout naturellement en France. Et la France nous a recueillis. Ça a été notre havre de paix, quoi.
Alors, vous avez fait des études de théologie ou comment vous êtes venu à...
Oui, j'ai fait d'abord des études d'histoire. J'ai été 2 ans en faculté d'histoire. C'était avant mai 68. Quand est arrivé mai 68, j'ai fait partie de ces jeunes qui se sont engagés sur le plan syndical puis sur le plan politique. Et je suis entré, quand j'ai trouvé du travail, je travaillais au Touring Club de France, qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai adhéré au syndicat, à la CGT, et puis quelques mois après mon entrée au Touring Club de France, j'ai adhéré au Parti communiste, par réaction, peut-être contre les habitudes de la famille qui était catholique, et aussi parce que j'avais perdu la foi et que j'étais complètement orienté vers le militantisme politique.
Comment ça se fait que vous avez perdu la foi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que...
Ah, c'est une longue histoire. Disons que j'ai été admis au petit séminaire de Versailles. Petit séminaire qui était très serré, très strict à l'époque. Et le petit séminaire m'a amené à remettre en cause toute la foi de mes parents. Je suis entré au petit séminaire, j'avais 12 ans. Et... l'année suivante, mon père m'a dit « Tu y es, tu y restes. Tu iras jusqu'au bac. » Je ne pouvais plus envisager d'aller jusqu'au bac. Lorsque j'ai eu 13 ans, j'ai tout fait pour me faire mettre dehors du petit séminaire. Et puis, Je n'y arrivais pas.
C'était difficile, c'était une autorité ou...
Il y avait une certaine autorité, mais il y avait surtout... On nous disait, vous ne devez pas passer deux cours de récréation avec le même camarade.
Ah oui.
Ils avaient peur des amitiés particulières. Mmh. Ensuite, lorsqu'on nous emmenait au sport le jeudi après-midi, c'était le jeudi après-midi à l'époque, et lorsqu'on nous emmenait au sport, il y avait une jeune fille qui passait sur l'autre trottoir, le père abbé se mettait
devant,
il écartait les mains et il disait, les enfants, regardez devant vous, le péché, c'est le péché derrière moi. Et puis d'autres choses aussi. Donc j'ai décidé de faire le mur, je me sentais enfermé, et puis n'en pouvant plus, j'ai avoué à mes camarades de classe que j'avais perdu la foi. Et les camarades l'ont fait savoir à leur directeur de conscience, qui l'a répété au directeur du séminaire, et le directeur m'a convoqué, m'a dit « Ah, c'est le seul cas d'exclusion définitive du séminaire. »
Parce que vous pouviez contaminer les autres aussi.
Exactement, mmh. Exactement. Et c'est pourquoi je suis parti du séminaire et j'ai décidé que Dieu n'existait pas. J'ai compris, si vous voulez, je disais que Dieu avait été créé par l'homme, que ce n'était pas Dieu qui avait créé l'homme, mais qu'il avait été créé par l'homme. Et que... je voulais rétablir la vérité autour de moi et j'ai commencé à militer contre le christianisme. Et puis, le jour où j'ai adhéré à la CGT, j'ai suivi une formation assez poussée en économie politique. Lorsque j'ai adhéré, grâce à un ami algérien, j'ai adhéré au Parti communiste. J'ai adhéré parce que je voulais prouver que le parti devait être il devait être contre l'Union soviétique. J'avais des convictions, je n'ai pas adhéré comme ça. Il devait être contre l'Union soviétique. Et puis, c'est le contraire qui s'est passé, puisque Georges Marchais, secrétaire général du parti, a parlé d'un bilan positif dans ce qu'a fait l'Union soviétique. Et il est passé sous silence les millions de morts dus au régime de l'époque. Et puis... par la suite, donc, j'ai été amené à quitter le parti. Après une dizaine d'années, 12 ans, je crois, que j'ai été militant communiste. J'ai même été élu communiste. Et j'ai été un élu un petit élu, élu parmi les gens qui sont élus sur une liste électorale. Mm-hmm. Je n'ai pas été adjoint du maire ou quoi que ce soit, mais enfin j'ai été élu sur une certaine liste électorale. Je me suis fait connaître en tant que communiste et j'ai continué à militer en tant que communiste. Et puis, un jour, je suis arrivé à une divergence telle avec mon parti que j'ai fini par rendre ma carte, renvoyer ma carte au comité central, dont Georges Marchais donc, était le président. Il m'a envoyé... un de ses collaborateurs qui était lui aussi stalinien j'ai accepté de reprendre ma carte, mais à la première occasion, je l'ai rendu de nouveau parce que le parti avait fait les camarades du parti, les camarades de Haute-Marne, avaient jeté dehors un secrétaire de cellule qui avait bu un petit peu et qui protestait contre une nomination à l'intérieur du parti. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé le visage en sang, complètement les mains en sang, etc. Enfin, et il était dans le caniveau devant la salle où le parti se réunissait. Alors je me suis dit non, je peux pas accepter ça. En plus de ça, j'avais envoyé ma contribution au 23e congrès. Je l'avais envoyé à l'Humanité, qui avait toujours passé mes articles et qui ce jour-là a passé 10 lignes dans l'Humanité et tout le reste.
D'accord. Ils ont fait un choix que moi
j'ai appelé ouais. Une censure.
Bien sûr.
Alors, comme je me suis opposé à cette censure, j'ai envoyé mon article dans d'autres revues, communistes ou non communistes, et puis j'ai quitté le parti. Voilà pour ma vie de militant communiste.
Alors ensuite, vous avez habité Saint-Dizier, magasin. Vous teniez un magasin de papier
peint. Je tenais un magasin de papier peint. Je m'étais présenté. J'avais soutenu Marius Cartier à l'époque, qui était le maire de Saint-Dizier. Il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. Un jour, un homme entre dans mon magasin et me demande si j'acceptais de participer à une collecte pour les missions chrétiennes. Je lui ai répondu tout naturellement, vous savez, je suis communiste, je n'accepte pas la charité, je crois à la solidarité entre les peuples, mais la charité chrétienne, j'ai horreur de ça. Et je l'ai mis dehors, en lui tenant le bras, je l'ai raccompagné à la porte, et je l'ai mis dehors. Et il s'est retourné, et il m'a dit, en tout cas, je vous remercie, parce que j'ai rarement été accueilli, comme vous l'avez fait, par un militant communiste. Il m'a dit, je reviendrai peut-être l'année prochaine. Et il est parti. L'année d'après, effectivement, presque jour pour jour, il est revenu. Il avait les jambes qui tremblaient parce qu'il se demandait comment j'allais le recevoir cette année. Et moi, j'avais connu l'année la plus noire de ma vie. Si vous voulez, je vous en parle.
Oui, oui, oui.
J'ai résumé tout ça dans le livre « Ma révolution ». La plus noire de ma vie parce que j'avais mon beau-père, le père de ma femme, qui venait de tuer une femme en voiture. Cette femme est descendue sur la route au moment où il passait, et puis il ne l'a pas vue, ou je ne sais pas. Et il l'a heurtée, et elle est morte. Elle était maman d'un enfant handicapé. J'avais des difficultés dans mon travail. Il y avait un concurrent qui s'était installé à proximité de mon magasin et qui cassait tous les prix pour me faire tomber, quoi, pour m'empêcher de vendre. Et j'ai eu des gros, gros, gros soucis financiers et des problèmes avec mes supérieurs hiérarchiques. Avec ma femme, on ne s'entendait plus. On s'était séparés pendant quelques jours et puis il était question que nous divorcions. Tout allait mal. Et puis, comble de malchance et de problèmes, mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, était malade et on lui avait décelé un cancer. Il devait mourir dans les 6 mois. Je ne savais plus à quel saint me vouer. Et cet homme que j'avais vu l'année précédente et que j'avais mis dehors, manu militari, comme on dit, est revenu et m'a dit « Écoutez, je reviens vous voir ». Et il n'a pas eu l'occasion d'ouvrir plus la bouche. Je lui ai dit « Ah, comme je suis content de vous voir. Mm-hmm. Est-ce que vous restez dîner avec nous ce soir ?» Et il n'a pas compris mon revirement, mais il s'est dit « Il a quelque chose... à me confier, il veut parler. Il n'a pas pu rester chez nous ce soir-là, mais il est revenu l'année suivante, une année de plus. Et à partir de là, on a cheminé pendant des années. Je crois que c'est pendant 6 ans, on a cheminé où il a tenté de nous faire accepter l'évangile, que je n'ai pas accepté facilement. Et puis, un jour, j'ai déménagé, j'ai vendu la maison que j'avais, j'ai fermé le magasin, et je suis parti dans la région parisienne sans le prévenir. Et lui, n'ayant pas ma nouvelle adresse, il est allé à Saint-Dizier, il est allé à Baudonvilliers, où j'avais construit une maison. Et il s'est retrouvé un jour devant une poste où il a été chercher mon adresse en se disant peut-être que j'aurai son adresse. Parce que je lui avais dit que mes parents habitaient la région parisienne et qu'ils habitaient Bezons. Donc il s'est dit, ben voilà, je vais chercher à Bezons. Et je vais peut-être tomber sur le nom de Bilisco.
Donc, vous l'avez retrouvé ? Oui, il vous a retrouvé.
Il m'a retrouvé par ce biais-là. Et un jour, je lui ai proposé de venir déjeuner à la maison. Il est venu avec son épouse, avec ses enfants. Nous avons vraiment senti la chaleur d'un foyer. Et ce jour-là, il m'a dit, écoutez, je peux pas venir vous voir comme ça, j'habite trop loin. Je vais donner des consignes à un ami pour qu'il vienne vous voir. Et je lui ai dit, bon, d'accord, mais c'est que je me demandais ce qu'il voulait. Et cette nouvelle personne qui habitait de mon côté, il m'avait dit qu'il était pasteur. Et je me demandais, j'avais dit à mon épouse, écoute, si nous téléphone, on lui dira qu'on ne peut pas, puis on verra bien. J'ai refusé 10 fois au téléphone, 10 fois. Et il m'a rappelé à chaque fois, parce qu'il m'a avoué, après, par la suite, il m'a avoué que si je lui avais dit non, il ne serait pas revenu, il n'aurait pas rappelé. Mais ne lui disant pas non, il m'a rappelé pour savoir quand il pouvait venir. Il est venu un jour parce que j'ai dit à mon épouse, on ne peut pas lui refuser tout, on ne peut pas. Puis pour Paul, on l'a accepté, il est venu, il nous a proposé. D'une manière très intelligente, il nous a proposé d'étudier l'histoire. Pas d'étudier la Bible, mais d'étudier l'histoire, de savoir, d'étudier l'archéologie, de voir tout ce que la Bible dit, de savoir si c'est vrai, si c'est authentique. Nous avons commencé à étudier l'histoire. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et deux ans après, nous avons demander le baptême. Mais entre-temps, j'étais toujours athée. Je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas en l'Église, surtout pas. Je voulais savoir si Dieu existait ou s'il n'existait pas. Et puis il nous a montré dans la Bible que Dieu se révélait à des gens qui croyaient, à des gens qui faisaient la démarche, du moins, de s'approcher de lui, de s'ouvrir à lui. Alors, je me suis dit, on peut essayer, pourquoi pas. J'étais dans ma voiture le lendemain du jour où nous avons fait une étude sur la prière, et où il avait prié de façon remarquable, parce que la prière, c'est quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose d'appris quand on était enfant, c'est vraiment spontanément. Il a prié et il a dit, à la fin de cette prière, il a dit, voyez comme c'est simple de prier. Alors je me suis dit, ce jour-là, dans ma voiture, pris dans les embouteillages à Paris, j'étais dans la file du milieu, sur le périphérique, j'ai eu envie de prier parce que les voitures étaient bloquées. J'avais éteint, moi, le moteur parce que je ne pouvais pas rouler du tout. Et j'ai eu envie de prier, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, bon, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, je sais que si je suis persuadé que tu existes, si tu réponds à ma prière, là, maintenant, je te mets au pied du mur, je te donnerai toute ma vie. Et j'avais les yeux fermés encore, quand ça a klaxonné derrière moi, j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus une seule voiture devant moi, les deux files de voitures étaient encore encombrées, j'ai démarré vite fait, et je suis arrivé juste à temps pour voir le client que je devais voir. J'étais alors représentant de commerce.
Et ça a été le déclic.
Ça a été le premier déclic, oui.
Pour devenir pasteur après.
Ça a été le premier déclic pour rencontrer Christ, pour qu'il transforme ma vie. Et il a transformé ma vie, il a bousculé ma vie. Mmh. Et après avoir demandé donc le baptême, j'ai porté témoignage auprès des gens qui étaient là. Mais mon témoignage a duré, je l'ai fait avec mon épouse, a duré trois quarts d'heure pendant lesquels j'ai déversé mon cœur. Je me suis vidé et j'ai dit à Dieu, tu es le plus merveilleux des pères. Et puis c'est tout. Je suis pas devenu pasteur tout de suite. Je suis parti en 1985 faire des études de théologie. Mon épouse a accepté d'aller dans ce campus universitaire où j'ai fait des études de théologie. Et lorsque je suis sorti d'abord parce que j'ai été appelé par ma fédération pour un travail au niveau des publications de ma fédération. Et par la suite, pour des raisons de maladie, j'ai demandé à rejoindre une église et à faire ce qu'on appelle dans le patois de Canaan de l'évangélisation directe.
Voilà. Yvon Bilisco, donc pasteur à la retraite, pasteur donc pendant 25 ans. Alors, quel est le rôle d'un pasteur? Quel est le quotidien d'un pasteur? À quoi vous servez?
Oui, c'est une bonne question. Je crois que l'essentiel du rôle d'un pasteur, c'est de faire la cure d'âme. On appelle un prêtre monsieur le curé ou monsieur l'abbé, et il fonde la cure d'âme, c'est-à-dire il essaye d'apporter ce qu'ils peuvent apporter. On a fait des études de théologie, mais au cours de ces études de théologie, on a fait des études de psychologie, on a fait des études différentes, et on sait s'adresser à certaines personnes qui sont en mal de quelque chose. On appelle l'Église une sorte d'hôpital, parce que
l'hôpital des âmes.
L'hôpital des âmes, c'est ça, tout à fait. Et je me suis senti vraiment à l'aise dans ce ministère. Ensuite, la seconde partie qui est même essentielle, c'est la partie ministérielle, c'est-à-dire la partie où on sert quelqu'un, on sert Dieu, on sert son Église automatiquement. Mais j'ai trouvé que dans le protestantisme, on était beaucoup plus proche des gens. On était mariés, j'étais marié, j'avais deux enfants. Je n'étais pas un prêtre qu'on met sur un piédestal. Je n'étais pas quelqu'un auquel on disait monsieur l'abbé, monsieur le curé, monsieur le pasteur. Non, on m'appelait Yvon dans mon ministère. C'était simple, j'avais des rapports avec les gens qui étaient simples. Et au fur et à mesure, au cours de mon ministère, j'ai eu des hauts et des bas, parce que c'est pas facile quand on a affaire à des hommes et à des femmes, c'est pas facile toujours. Il y a parfois des compromis qu'il faut faire, il y a parfois un rapport de force, parfois il y a différentes situations dans lesquelles on se trouve. Et pour prendre un exemple seulement, quand je suis arrivé dans une église, j'ai eu une paroissienne qui est venue me trouver en me disant, je te préviens, parce que je la connaissais depuis 20 ans, cette personne. Et elle me dit, je te préviens, je ne te respecte pas. Je ne respecte pas les pasteurs, alors tu auras affaire à moi. Bon, ça m'avait frappé. Mmh. Et effectivement, à chaque fois que j'avais à prêcher, à chaque fois que j'avais quelque chose à annoncer à l'église, elle se levait, elle sortait. Il y a parfois...
Et pourquoi elle venait alors ?
Ben, elle venait pour d'autres choses, certainement. Elle venait parce qu'elle voulait se faire bien voir de la communauté, qu'elle souhaitait récupérer ce qu'elle n'avait pas chez elle. Chez elle, elle avait affaire à un mari assez autoritaire et elle semblait avoir besoin de la communauté pour s'affirmer, pour... Et elle a fait ce qu'elle pouvait, mais elle a causé aussi des problèmes aux différents pasteurs qui sont arrivés dans cette église. Il y a des églises dans lesquelles tout se passe bien. Il n'y a pas du tout de problème.
Quand vous parlez de problèmes, c'est-à-dire des problèmes qui sont dus à quoi ?
Des problèmes qui sont dus aux gens.
Des rebelles qui sont...
Oui, parfois ce sont des rebelles, mais parfois ce sont des gens qui n'acceptent pas certaines choses, n'acceptent pas, par exemple, quand il y a une décision qui est prise par le comité d'église, il y a des gens qui vont protester auprès de mon épouse et mon épouse leur dit « Mais je n'y suis pour rien, moi. Je ne sais même pas la décision contre laquelle vous vous élevez. Allez trouver mon mari, allez le lui dire. » Et ces gens-là ne sont jamais venus me le dire. Donc, il y a des gens qui, comme dans toute association humaine, dans la moindre des associations, il y a des gens qui revendiquent une place qu'ils n'ont pas, qui vous remettent en cause, qui, bon, C'est
naturel. Vous faites partie d'une fédération, donc oui. Il y a des choses à respecter. Je voulais vous parler du quotidien d'un pasteur, c'est-à-dire vous faites des messes, vous allez rencontrer les gens chez eux. Quel est votre travail,
oui.
Si on peut dire ça comme ça.
Alors, le travail essentiel, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la cure d'âme. Et pour ça, il faut souvent aller chez les gens, aller voir la personne si on sent qu'elle a un souci, qu'elle a un problème, qu'elle est peut-être...
On peut vous appeler comme se communier ou...
Oui, on peut m'appeler à tout moment.
Se confesser,
tout à fait. À part que chez les protestants, la confession n'est pas obligatoire et elle ne s'assortit pas de règles, de certaines choses, de réciter, dit « Je vous salue Marie », un autre père, il n'y a pas de conclusion. Si une personne veut se confesser, elle se confesse directement à Dieu. Si elle a besoin de passer par un homme, de passer par le pasteur, eh bien, elle passe par le pasteur, mais le pasteur ne lui dit pas « Je te pardonne », c'est une affaire entre Dieu et elle. Voilà. Quant aux différentes cérémonies qu'il faut avoir, bien sûr, il y a des règles aussi qui ont trait à ces différentes cérémonies. Et un pasteur est là pour... faire appliquer ces règles, le règlement intérieur de l'Église, comme dans toute association. Et il cherche à orienter les gens vers la Bible, l'essentiel du message de Jésus-Christ dans la Bible.
Alors, qu'est-ce qui vous a mené à écrire ce livre autobiographique et qu'est-ce qu'on y trouve dans votre livre? Vous allez nous en lire quelques extraits?
Oui, je vais vous lire quelques extraits. D'abord, l'épilogue, le prologue, pardon, l'année noire. Comme ça fait du bien de vous revoir, vous pouvez rester dîner avec nous ce soir? Mon visiteur me regardait, les yeux écarquillés, bouche bée, ne sachant quoi répondre. Un an auparavant, je l'avais mis dehors, et cette fois, je l'invitais à partager mon repas. Lui, qui avait hésité à remettre les pieds dans mon magasin, devait se demander s'il avait fait le bon choix. C'était peut-être du lard, ou alors du cochon. Le gros bonhomme barbu et agressif que j'étais allait de nouveau l'envoyer balader avec perte et fracas. À moins que non. Dans ce cas, que s'était-il passé ? Comment expliquer un tel revirement autrement que par un miracle? Mon visiteur ne pouvait pas deviner que je venais de vivre l'année la plus noire de mon existence. C'était en 1979 et j'étais à l'époque commerçant en papier peint à Saint-Dizier.
Un autre extrait.
L'amour de ma vie. Daniel et moi étions enthousiastes et nous avions continué à étudier la Bible avec le pasteur Charlie. D'autres expériences spirituelles ont suivi celles du périphérique. J'ai eu notamment la chance de sortir indemne de plusieurs graves accidents de voiture. Comme ce jour où à Pontoise, sur une route à quatre voies, deux descendantes et deux montantes, je doublais deux voitures. Quand j'ai vu deux autres véhicules venir en sens inverse, c'est à ce moment précis qu'un cinquième conducteur a pris la folle décision de doubler les deux premières qui montaient dans le sens opposé. Nous nous sommes retrouvés à 5 de front sur une route qui ne permettait le passage que de 4 voitures. Mon Dieu, protège-nous. J'ai juste le temps de terminer ma prière et de placer mon bras de manière à empêcher les enfants de passer par-dessus bord. J'ai freiné de toutes mes forces, j'ai fermé les yeux, je me suis raidi pour amortir le choc. Que pouvais-je faire d'autre ? Que pouvais-je faire d'autre ? Boum ! J'ai rouvert les yeux. La voiture qui était arrivée en face de la nôtre avait percuté celle qui nous suivait. Nous étions indemnes. Alors je vous laisse le soin de lire la suite de ce qui m'est arrivé ce jour-là. Militant toujours. Suite à mon AVC, j'ai eu un accident vasculaire cérébral à la fin de mes études de théologie et pendant que j'étais directeur des publications. J'ai demandé à quitter le service des publications chrétiennes de mon église. Je voulais rejoindre un poste sur le terrain. Militant un jour, militant toujours. Je ne me suis pas ménagé pour autant, d'où mes problèmes coronariens déjà évoqués. Dis papa, tu es allé en prison aujourd'hui ? Devant les copains de classe de mes enfants, ça faisait son effet. Un peu moins devant leurs parents. J'ai été nommé pasteur dans le Val-de-Marne, à Chevilly-la-Rue plus précisément, et comme je voulais de l'action, je me suis retrouvé en prison pendant 3 ans, pas comme détenu, Dieu merci, non, en tant qu'aumônier, de 90 à 93. Quelques expériences positives en tant que visiteur. J'ai voulu aller plus loin. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas si simple d'entrer dans une prison, presque aussi compliqué que d'en sortir. Et puis, l'épilogue de mon livre parle d'un retour aux sources. Il cite d'abord le dictionnaire « révolution ». Que signifie la révolution, ma révolution ? C'est un mouvement orbital, périodique d'un corps céleste, en particulier d'une planète ou d'un satellite, autour d'une autre de masse prépondérante. Période de ce mouvement, appelée aussi période de révolution. Mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point. Changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Tout cela s'est tiré du Larousse. Nous voici arrivés au terme de ce long périple de 69 ans. La boucle de ma révolution est bouclée après près de 70 ans après le début de cette étude. Je reviens aux sources, celles du Nil, bien sûr, mais pas seulement. Ô chère Égypte qui m'a vu naître, c'est avec toi qu'a commencé mon aventure, l'aventure de ma vie. Mon cœur était resté si lourd depuis notre séparation forcée. Je puis même certifier qu'il s'est alourdi à mesure que j'ai pris de l'âge et que notre éloignement s'est petit à petit établi dans la durée. J'étais dans ma 7e année lorsque nous avons été séparés et j'ai aujourd'hui 69 ans. 69 ans que je traîne ma carcasse dans ce monde à la recherche de mon paradis perdu. Pendant longtemps, je me suis demandé à quoi il ressemblait, mais ce que je savais, c'est qu'il me manquait. J'avais un grand vide dans ma vie, dans mon cœur, que je voulais combler. C'est pourquoi je suis parti à sa recherche. J'ai longtemps cru que c'était toi, ma belle Égypte, et c'était en partie vrai, mais il y avait beaucoup plus que cela. Et je suis reparti en Égypte cette année, 63 ans après, au mois d'avril. Je me suis payé le voyage en Égypte lorsque ma maman est décédée. Elle m'a laissé un petit pécule et j'ai pu aller retrouver la terre de mes ancêtres.
Merci Yvon Bilisco pour ce témoignage et cette lecture donc de votre livre, un livre qu'on peut retrouver sur un site www.monhistoire2de.com. Mon histoire de... Non,
deux.
Ah, un 2, le chiffre.
Deux, le chiffre 2, pardon.
Donc, écrit en chiffres.
Hein? Voilà, mon histoire 2.
Avec
deux,
le chiffre 2.
Deuxièmement.
Point com, d'accord. Eh bien, vous faites bien de préciser.
Oui.
Et on peut aussi vous le commander par téléphone ou avoir des renseignements avec vous au 06 61 17 12 47. 06 61 17 12 47. Yvon Bilisco, donc pour votre livre « Ma révolution ». Vous êtes donc un pasteur à la retraite et votre livre est le début d'une autre grande aventure. Il est aux éditions, il coûte 20 euros, d'accord. Il est édité par qui?
Par un petit éditeur qui s'appelle Thierry Hernando.
Thierry Hernando. Alors on va venir juste vraiment quelques petites minutes sur vos autres projets, puisqu'il y a d'autres créations à venir de livres.
J'ai réalisé, en 1988... J'ai réalisé une maquette sur le suaire de Turin. J'ai fait beaucoup de conférences sur le sujet depuis. Et cet éditeur-là, un petit éditeur, m'a proposé d'écrire un livre avec lui, d'éditer un livre qui s'intitulera Le suaire de Jésus, point d'interrogation. Et je réaliserai dans ce livre tout ce qui me prouve que scientifiquement, c'est peut-être le suaire de Jésus. Mais dans une seconde partie, je parlerai du suaire de Jésus tel qu'il a été décrit dans les évangiles. Et je laisserai aux lecteurs le soin de dire s'ils y croient ou s'ils n'y croient pas.
Alors, je voyais sur votre... c'est quoi? C'est la quatrième de couverture.
Oui.
Ça me fait drôle de voir écrit J.C.
J.C.
C'est un langage moderne,
oui,
J.C.
Oui, oui. J.C, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais... dans un langage actuel, ce livre est plein d'humour, il est plein d'histoires passionnantes qui peuvent passionner autant les croyants que les incroyants. Mm-hmm. Et il est fait de telle façon que ça peut intéresser toutes sortes de personnes, petits ou grands. Voilà.
Eh bien, je vous remercie. Et puis, je rappelle donc l'adresse pour commander votre livre et puis vous dire aussi que l'émission sera en ligne très vite sur notre site www.fréquencemistral.com. Donc, ce sera dans l'onglet de émission de Digne-les-Bains. Et voilà, ce sera très vite en ligne. Et pour trouver... Oui, si vous voulez.
Oui, je voudrais dire que le second projet que j'ai, c'est de mettre par écrit les cours d'histoire des religions que je donne à l'UTL, à Gap et à Laragne. Donc je pense réaliser un cours d'histoire des religions.
Des religions, oui, parce que vous faites ça à l'UTL de Gap et
oui.
de Laragne. Et j'avais vu une petite vidéo où vous proposiez ces cours. 5 ans pour ces cours.
Ah, 5 années de
Il
cours.
Il faut s'engager oui. En tant que...
Non, parce que ces cours sont indépendants les uns des autres. Chaque année est indépendante.
Ah, d'accord.
Le premier cours dure une année, c'est sur les religions de l'Antiquité. Ensuite, c'est sur les religions actuelles, les religions monothéistes, les religions polythéistes et les à côté, comme l'athéisme ou la tolérance, tout ce qui tourne autour de la religion.
Yvon Bilisco, on se quitte. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de votre livre et pour qu'on fasse connaissance avec, avec le rôle d'un pasteur.
Merci à vous.
Et puis donc www.monhistoirelechiffre2.com pour commander le livre et le 06 61 17 12 47. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site. Bonne soirée, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.